Alors, chers amis, bonjour. Alors, jeunes, bonjour. Alors, c'est un défi de taille pour pouvoir expliquer la pénétration de l'adventisme au Québec. Pourquoi que c'est un défi de taille? Parce que c'est une histoire qui couvre une période de 150 ans, plus de 150 ans. Et qui veut dire vraiment raconter cette histoire. Ça devient vraiment donc un défi, surtout en quelques minutes. Et j'espère, comme la fédération est en train de mettre sur pied vraiment l'institution, eh bien, donc, pour pouvoir enseigner et certaines matières, eh bien, à ce moment-là, on pourra bien cerner, eh bien, cette dimension-là. La question qu'il faut poser en expliquant la pénétration, eh bien, donc, de l'Église adventiste au Québec, je vais essayer vraiment de faire une synthèse. C'est pas toujours facile vraiment de faire une synthèse d'une matière aussi riche. Depuis quand le message adventiste a-t-il commencé au Québec? Il faut dire, ce fut en 1848 que Joseph Bates, en tant qu'adventiste, vous devez connaître vraiment Joseph Bates, parce qu'il a joué un rôle très important, très déterminant, eh bien, dans l'Église adventiste du septième jour. Effectivement, ce fut donc en 1848 que Joseph Bates commença à visiter les cantons de l'Est, le Québec, les environs. Et alors, qui était Joseph Bates? Nous devons comprendre. Joseph Bates était un membre du groupe des observateurs du sabbat. Vous devez comprendre en tant que jeune, après la déception du 22 octobre 1822, c'était la grande déception, le mouvement adventiste était divisé en trois groupes. D'abord, le premier groupe, c'était le groupe de la spiritualisation. Alors, on a essayé d'interpréter l'événement. Oui, Jésus-Christ est venu, mais dans les cœurs des croyants. C'était la première interprétation de ce groupe, de la spiritualisation. On a spiritualisé l'événement en tant que tel. Le deuxième groupe, c'était le groupe des modérés, qui voulaient garder la foi originale du mouvement adventiste, mais tout en rejetant le sabbat. C'était le groupe d'Albanie, qui voulait réconcilier tout ça, etc., continuer, eh bien, on a fait une erreur, mais on devait continuer, tout en gardant, eh bien, donc, le message du retour de Jésus-Christ. Le troisième groupe, qui est très important, qui avait 50 personnes seulement, c'était le groupe des observateurs du sabbat. Alors, le dernier groupe a étudié les sanctuaires, a réétudié les sanctuaires, et ensuite a compris le message des trois anges de l'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Et il les a compris. Les observateurs du sabbat se sentaient investis de la mission, de la grande mission de propager, eh bien, le message du sanctuaire, le message des trois anges et la vérité du sabbat. Eh bien, Joseph Bates faisait partie vraiment de ce troisième groupe, comme Ellen White. Donc, ce troisième groupe, et grâce à l'intervention de Raquel Hobbs, qui a introduit dans le mouvement avant la déception la vérité du sabbat. Eh bien, Joseph Bates était un membre du groupe des observateurs du sabbat, et c'est ce groupe qui est devenu en 1860 l'Église adventiste du septième jour. C'est le troisième groupe. En 1848, Joseph Bates visitait les cantons de l'Est. Et il tenait des réunions à Westbury. Et donc, en 1849, il formait un petit groupe de croyants à faire âme. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est vraiment aux environs des cantons de l'Est. Alors, en avril 1850, il prêchait dans les régions de Melbourne, Brampton et Eton. Joseph Bates, c'était un grand missionnaire. En 1850 aussi, James et Ellen White visitaient les cantons de l'Est. Et ils visitaient les petits groupes des observateurs du sabbat À ce moment-là, ce n'était pas encore officiel, l'Église adventiste du septième jour. En 1856, il y avait un tournant très important qu'il faut considérer. Deux jeunes du Québec ont accepté le message des trois anges, le message du sanctuaire et le message du sabbat. C'était deux frères, comme Michel et Gabriel. Alors, c'était deux frères, Augustin Bourdeau, 21 ans, jeune garçon, et ensuite Daniel Bourdeau, 20 ans, à l'espace vraiment d'une année, qui veut dire les parents ont conçu. Donc, ils ont été conçus comme ça. Alors, c'est ainsi, ces deux frères étaient membres de l'église baptiste. C'était des baptistes. L'église adventiste commençait avec vraiment des membres d'autres religions à Enosburg. Augustin et Daniel Bourdeau répondaient le message. Ils étaient zélés, c'était des jeunes zélés qui voulaient prêcher l'évangile tout au nord du Vermont, qui veut dire vraiment dans les cantons de l'Est, et bien parmi les croyants protestants. Difficulté pour atteindre la majorité catholique. Alors, janvier 1861, alors c'est un résumé, pas de temps pour entrer dans les détails, Alfred Hutchins, Augustin et Daniel Bourdeau organisaient 23 réunions, une campagne d'évangélisation de 23 jours, eh bien, au nord de Saint-Anne. Il y avait, par exemple, une forte opposition. Les pasteurs baptistes, protestants, s'opposaient catégoriquement à ces réunions. Et ils travaillaient. En 1864, eh bien, une église fut organisée à Westbury, à Seton, Eton, etc. Des petits groupes de croyants. Quatre petites églises furent organisées entre 1862 et 1865. Et ces petits groupes-là étaient supervisés par la Fédération des Vermont, les anglophones, les Américains. Comment vraiment, écoutez bien, imaginez vraiment les Américains qui ne peuvent pas comprendre vraiment la mentalité, et bien donc francophones, et bien sont en train de diriger vraiment ces groupes de francophones. Vous allez voir vraiment nos malheurs, tout ça, etc., les difficultés. Alors, de 1862 à 1875. Maintenant, la grave erreur, si je pourrais dire, on a transféré les frères Bourdeau, Augustin et Daniel, zélés comme Québécois francophones. La fédération, la conférence générale, qui veut dire les leaders de Battle Creek, avait transféré les frères Bourdeau. Il faut dire vraiment que ces frères-là, à un moment donné, donnaient beaucoup plus de temps dans le monde anglophone que le monde francophone. Ils prêchaient plus, vraiment, ils donnaient plus de temps pour atteindre ces gens-là. Daniel et Augustin ont quitté le territoire du Québec. C'était vraiment un malheur. Effectivement, ce changement avait occasionné, provoqué la négligence de l'œuvre parmi les francophones, parmi les Québécois. Il n'y a plus de soins adéquats. Daniel n'est plus là, et ensuite Augustin n'est plus là. Il y a un autre problème aussi, parce que la fédération, eh bien, de Vermont avait un manque de ressources financières, n'avait pas suffisamment de sous, alors qu'il veut dire on ne voyait pas la nécessité d'investir dans l'œuvre au Québec, mais plutôt il faut s'occuper des Américains. Est-ce que vous voyez là? Donc, il dit vraiment, les petites églises piétinaient. Donc, n'avançaient pas. Parce que normalement, il n'y a pas de ressources financières pour aider. Et ensuite, aucun plan a été fait pour atteindre la population francophone du Québec. Il n'y avait pas un plan stratégique pour dire vraiment, on veut atteindre les Québécois. Et surtout, vraiment, l'église adventiste n'était pas connue. Et parmi la majorité des Québécois, catholiques. En 1875 et 1800 jusqu'à 1883, Augustin est retourné au Québec et voulait faire une tentative eh bien, d'établir une église adventiste stable parmi les Québécois. Bon, on peut dire pendant 8 années, ils travaillaient. Ils avaient organisé 3 nouvelles églises, quelques groupes dans les cantons de l'Est, par exemple South Stockley, Bolton, Waterloo, etc. Voilà, c'est le résultat, mais maigre résultat. South Stockley et Dixville Fédération faisaient partie vraiment de la Fédération des Vermont. À ce moment-là, l'intervention de la Conférence Générale, justement pour faire une séparation, pour dire, écoutez bien, donc la Fédération des Vermont ne peut pas s'occuper vraiment de l'œuvre au Québec. Et à ce moment-là, on a mis, Bourdeau à la tête vraiment de cette conférence. On a confié la supervision de l'œuvre du Québec à Bourdeau. Bourdeau avait des succès relatifs, peu de succès, pas un grand succès. Et à ce moment-là, il a organisé donc le committee à Magog, moyen d'évangélisation, parce que c'était la méthode d'évangélisation publique vient du committee que nous avons dans l'église adventiste. Ça fait 150 ans. Mais le début de l'église adventiste, c'est des petits groupes, des porte à porte, et puis ensuite pour rencontrer les gens. Maintenant, ça fait 150 ans, la méthode du committee devient vraiment la méthode officielle, qui n'est pas biblique. Parce que c'est maintenant, ça vient du monde protestant. Le committee des États-Unis, c'est le protestant pour réunir les croyants et les non-croyants, et puis ensuite, avec la sensation, les gens, peuvent se donner au Seigneur. Qui veut dire vraiment, donc, le committee réunissait des croyants à l'époque. Et c'est à ce moment-là, organisation, en 1880, on a pensé d'organiser une fédération au Québec. En 1880. Et il y avait 132 membres francophones. En 1880, 132. Combien de membres? 132. Pas plus que ça. Bon. 3 églises. Westbury, Eaton, Stockley, Bolton et ensuite Dixville. Augustin Bordeaux est devenu président de cette organisation de fédération. Daniel Bourdeau, secrétaire, son frère. Et ensuite Andrew Blake, membre laïc de Stockley, trésorier. Voilà la première, la première organisation. Il faut dire vraiment, entre 1893 à 1910, alors j'ai essayé vraiment de résumer, il y avait peu de progrès, mais il y a aussi des déclins. Parce que normalement, il n'y a pas un plan stratégique pour atteindre vraiment ces gens-là. Et c'est à ce moment-là, on est allé à Montréal. À Montréal, on n'avait plus de succès. À Montréal, plus de succès que les autres, etc. Et à ce moment-là, il y a une croissance relative des membres adventistes qui me diront, je vais vous donner vraiment les grands points, les grandes dates. À partir de 1844 et 1871, on a organisé une mission du Saint-Laurent, francophone seulement, pour les francophones. Et ensuite, les anglophones du Québec étaient affiliés avec Ontario. C'est ce qu'on appelle Ontario-Québec, Québec Conference. En 1862, les membres québécois français étaient 89 membres. En 1862, les membres québécois francophones étaient 89 membres. Et en 1870, 113 membres. Mais qui veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de progrès. Pourquoi? Faute des plans, structure, et ensuite, jusqu'à présent, le monde, le Québec catholique n'est pas atteint. Ces gens-là venaient vraiment des églises protestantes. Jusqu'à présent, nous avons ces problèmes-là. Nous avons ce problème dans l'église adventiste, même nos jeunes. On est allé auprès des protestants, auprès vraiment des baptistes, tout ça, etc. Mais on n'a pas une méthode pour atteindre les intellectuels, les séculiers, les catholicismes. Alors, c'est à... il faut examiner. En 1971, mission du Saint-Laurent francophone et les églises anglophones sont fusionnées pour former l'Association de l'Église adventiste 17e jour du Québec. Nos parents, la plupart des jeunes ici, vraiment sont arrivés en 70 ici, eh bien, connaissent vraiment cette association. L'association, ça veut dire le Québec n'a pas suffisamment de membres pour devenir une fédération. L'association, c'est comme une sorte de mission. Mission, etc. Et vous savez très bien qu'en Amérique du Nord, on n'accepte pas la mission en tant que telle, qui veut dire l'organisation missionnaire. Il faut avoir vraiment une fédération parce que le Québec fait partie vraiment des pays riches. Allez, alors, nous avons vraiment donc quand même, par cette fusion, eh bien pour cette nouvelle association, eh bien cette association a été organisée avec 605 membres. Distribué dans 8 églises. Maintenant, à partir de 70-80, nous avons une croissance au niveau des membres, mais c'est par l'immigration. Et on dit l'immigration ne fait pas grandir les églises, parce qu'ils sont déjà adventistes. Nous avons croissance de l'église quand il y a des non-adventistes qui quittent le monde, qui viennent dans l'église. C'est à ce moment-là qu'on peut parler vraiment de la croissance. Mais cependant, que ce soit en Afrique, ils viennent ici, ce sont des adventistes, les mêmes chiffres. Seulement, il y a un transfert. Eh bien, c'est à partir de ce moment 90, c'est l'immigration un peu partout. Par exemple, les Haïtiens sont arrivés en majorité avant, en 1960, les Haïtiens venaient ici, c'était des professeurs. Et bien ensuite, non-adventistes, eh bien, ils sont allés en France. Mais à partir des 70, eh bien, il y a des adventistes qui sont déjà, des gens qui sont déjà adventistes qui sont arrivés. Et à ce moment-là, il y avait une seule église francophone, c'était l'église de Saint-Léonard. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails pour vous expliquer tout ça, etc. Et, donc, voilà, et en résumé, je ne peux pas aller plus loin vraiment que ça. Je vais lire vraiment un texte. Et le problème de tout cela, la méthode de Jésus-Christ n'a pas été respectée, n'a pas été utilisée. Qui veut dire vraiment, donc même Augustin et Daniel avaient donné plus de temps dans le monde anglophone pour prêcher l'évangile parce que c'était plus facile. C'était plus facile parce qu'on cherche toujours le terrain plus facile pour prêcher l'évangile. Alors, c'est à ce moment-là, oui, donc on n'avait pas beaucoup de temps vraiment de cela. Alors, qui veut dire, je vais lire vraiment un texte pour vous. Et ça, c'est vraiment un résumé, même médiocre, parce que normalement, je déteste ça, pour ne pas entrer en profondeur des choses, mais c'est maintenant, on est lié par les temps, et je suis obligé de massacrer l'histoire. Alors, donc voilà le texte que je vais vous donner. Et qu'on le veuille ou non, on doit avoir un plan stratégique si nous voulons prêcher l'évangile. Nous devons avoir la méthode de Jésus-Christ, aller trouver les gens et être stable. Qui veut dire rester, par exemple, si on a un plan, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? Pendant 3 ans, on va choisir vraiment un lieu, eh bien une région. Pendant ces 3 ans-là, on va être constant pour pouvoir implanter une église. Et Bourdeau, eh bien, avait vraiment ce mandat. Mais pauvre lui, il n'avait pas suffisamment de temps pour accomplir ce mandat. Alors, je vais lire vraiment un texte pour vous. C'est dans Luc chapitre 10, versets 1 à 7, qui dit, après avoir choisi les douze pour organiser vraiment la mission en tant que telle, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà la méthode de Jésus-Christ. Il envoyait vraiment des disciples pour aller de ville en ville, des lieux, avant de passer lui-même pour récolter. Alors regarde bien, le verset 2 dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. C'est la méthode du petit, qui veut dire de maison en maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, et votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Verset 7, très important. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a une contradiction dans ce texte? C'est ça vraiment que j'aimerais soulever avec vous. Tout d'abord, Jésus-Christ a donné le mandat d'aller de maison en maison. Et dans le même texte, il dit, n'allez pas de maison en maison. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ a établi vraiment une méthode stable. Qui veut dire vraiment, arriver dans une zone, on vous accepte, vous devez passer du temps pour étudier le message. Ne continuez pas de faire de maison en maison. Parce qu'on vous accepte. Plus loin, si on ne vous accepte pas, secouez la poussière de vos pieds, partez pour aller dans une zone. Ce qui veut dire vraiment, si vous êtes dans une zone, vous allez travailler, eh bien on vous accepte, il faut donner des études bibliques. C'est cette méthode de Jésus-Christ. Il ne faut pas donner vraiment les pages imprimées comme ça, comme des fous. Le plus souvent, vous travaillez pour qui? Pour les autres religions. Vous savez très bien, donc le programme de Yilat Écrit, il y a beaucoup de gens, des gens qui ont écouté le programme de Yilat Écrit, qui sont devenus des témoins de Jéhovah. Parce que c'est un témoin de Jéhovah, et je vais vous donner un témoignage pour terminer. Et on a envoyé à l'époque des pasteurs Hermans, dans les années 80, eh bien, on a envoyé vraiment donc, les cartes, les gens qui sont intéressés au programme de Yilat Écrit dans les églises, pour que les pasteurs puissent contacter vraiment ces gens-là. Et puis, arrivé ici, je suis devenu vraiment le directeur de ministère personnel à l'église de Bethesda. Je regardais vraiment dans une boîte et j'ai vu vraiment beaucoup de cartes. Et puis j'ai choisi, eh bien, vraiment ces cartes-là. Et j'ai commencé par faire des porte-à-porte pour contacter comme représentant du programme Il est écrit. Arrivé vraiment sur UNEF, j'ai rencontré, j'ai trouvé vraiment une adresse, je suis allé. Et j'ai frappé, j'ai dit, je suis le représentant de Il est écrit. La dame dit, où étiez-vous? Quand j'ai envoyé vraiment cette carte. J'attendais vraiment les gens pour venir. Maintenant, c'est trop tard. J'ai dit, c'est pas trop tard. Donne-moi une petite chance. Il dit, c'est trop tard. Moi et ma famille, nous sommes des témoins de Jéhovah maintenant. On a travaillé pour les autres. Et c'est dans ce contexte-là, nous devons être constants. Arriver vraiment dans une zone, il ne faut pas semer comme ça et puis partir. Il faut rester, il faut être constant. Et c'est en ce sens vraiment que vous connaissez Clairette Grasulis, etc. Quand j'ai étudié avec Clairette, elle est devenue adventiste, transformée en missionnaire. On a fait des porte-à-porte. Quand on a trouvé des études bibliques, j'ai cessé vraiment des porte-à-porte. Je donne des études bibliques. Parce que après avoir étudié, la personne a pris la décision ou bien ne veut plus continuer, j'ai continué des porte-à-porte. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ dit, et nous pouvons relire vraiment les textes, et qui dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, parce que normalement, nous sommes des amis. C'est pas vrai? Donc, on établit vraiment une relation avec cette personne-là, et ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. En d'autres mots, ne quittez pas vraiment cette maison, il faut continuer à étudier avec ces personnes-là, et pour parvenir à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.